de revenir à la rue de Sèvres, retrouver des visages connus et puis en découvrir de nouveaux. Donc, une joie sincèrement partagée. Alors, passez le temps de la joie. Je serai honnête avec vous, nous avons du pain sur la planche, puisque aujourd'hui, je vous propose de lire et de méditer un chapitre entier de la parole. Alors, je le lirai dans la version second 21, mais quelle que soit la version de votre Bible, je vous encourage à suivre cette lecture dans votre Bible et à garder votre Bible ouverte, puisque au fil de la méditation, nous reviendrons régulièrement au texte. Alors, il s'agit de la première épître que l'apôtre Paul a adressée aux Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens. Et c'est le chapitre 2. Enfin, verset 1 à 16. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons. Non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder, pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu pour que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée. Parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-Juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, avant de commencer, juste une parenthèse sur les derniers versets. Parce qu'ils peuvent soulever un malaise, les propos de Paul à l'égard des Juifs sont très virulents. Et je ne voudrais pas qu'on puisse imaginer qu'ils sont antisémites. Alors en même temps, ce n'est pas le message central de ce passage, donc je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Je rappellerai seulement déjà que l'apôtre Paul est lui-même juif, mais non seulement juif, mais il aime sa nation. Dans Romains 9, versets 2 à 5, il déclare qu'il préférerait se sacrifier pour, je cite, « mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites ». Paul n'est pas antisémite, mais alors peut-être que ses propos le sont. Alors venons-en à ces versets. Les deux derniers versets contiennent six accusations. La première, c'est que les Juifs ont tué Jésus. Pour les habitués de la parole de Dieu, les évangiles et les écrits de Paul soulignent abondamment que ce sont tous les hommes qui sont coupables. Juifs, Romains, chacun de nous. Ici, Paul n'évoque que les Juifs en raison du contexte immédiat. À Thessalonique, ce sont des Juifs extrémistes qui persécutent l'Église et font écho à ce que Jésus a lui-même connu. La deuxième accusation, c'est que les Juifs ont tué les prophètes. Alors là, bon, dès l'Ancien Testament, un prophète comme Élie ou Néhémie porte cette même accusation sur les Israélites. Et cela ne fait pas de ces prophètes des antisémites. Les troisième et quatrième accusations sont les suivantes. Les Juifs ne plaisent pas à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Mais ces deux accusations ne sont pas un jugement racial définitif, car elles sont clairement liées à ce qui suit, à savoir la cinquième et sixième accusation. Les Juifs ne plaisent pas à Dieu et sont ennemis de tous les hommes parce qu'ils sont en train d'empêcher de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et parce qu'ils s'endurcissent dans ce péché qu'est la persécution. Alors au moment où Paul écrit cela, ces faits sont objectifs, historiques. Nous sommes en pleine persécution de l'Église par certains religieux juifs. Alors il est vrai que ces versets sont un réquisitoire, mais seulement envers ceux qui, parmi les Juifs, persécutent l'Église. Et si Paul ne prend pas de pincettes, eh bien c'est parce qu'il sait de quoi il parle. D'abord en tant que victime, il subit lui-même cette persécution, mais surtout, je pense, en tant qu'ancien bourreau. Souvenons-nous que 20 ans plus tôt, Paul fait partie de ces Juifs qui persécutent l'Église. D'ailleurs, il use de la même virulence envers lui-même lorsqu'il évoque son passé de persécuteur. Alors, je ferme la parenthèse, mais bien sûr, je reste à votre disposition à l'issue de ce culte. Je me tiendrai à la porte d'entrée, ou plutôt de sortie, pour parler de cela avec vous. Alors, je vous propose de débuter notre exposé. Je suis allé sur votre magnifique site internet. Le site internet de l'église de la rue de Sèvres est vraiment très beau. Et dessus, on trouve une présentation qui nous rappelle ceci. En tant qu'église protestante évangélique, elle se veut porteuse d'une bonne nouvelle, fière de cet évangile de la grâce divine. Elle s'efforce de le faire connaître autour d'elle. L'évangélisation fait donc partie de votre vocation, de notre vocation. Nous avons reçu une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, et nous devons la communiquer à d'autres. Alors cette bonne nouvelle, puisque vous avez gardé vos bibles ouvertes, eh bien Paul l'a résumée juste avant notre passage, à la fin du chapitre 1. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous appelle à le servir et à attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Voilà la bonne nouvelle que nous devons transmettre. Mais comment transmettre l'Évangile? Comment le faire d'une manière qui plaise à Dieu? Eh bien, dans ce passage, Paul nous raconte son expérience d'évangéliste à Thessalonique et il nous donne de bons tuyaux en la matière. Alors, je vous propose de voir deux choses. D'abord, la forme d'une évangélisation authentique. À quoi ressemble une évangélisation selon la volonté de Dieu? Ça, c'est les versets 1 à 12. Et après la forme, nous verrons les effets d'une évangélisation authentique, les versets 13 à 16. La forme et les effets. Alors commençons par la forme d'une évangélisation authentique. Donc là, je vous propose de relever quatre aspects. Versets 2 et 3, tout d'abord, nous verrons que l'évangélisation authentique s'appuie sur Dieu. Versets 4 jusqu'au début du verset 6, nous verrons que l'évangélisation authentique cherche à plaire à Dieu. Puis la suite du verset 6 jusqu'au verset 9, l'évangélisation authentique manifeste l'amour de Dieu. Et enfin, versets 10 à 12, elle manifeste la sainteté de Dieu. Alors d'abord, l'évangélisation authentique s'appuie sur Dieu. Parler de Dieu aux autres n'est pas sans risque. Paul a été maltraité à Philippe, il a même été jeté en prison. Pourtant, sitôt arrivé à Thessalonique, il continue d'annoncer l'évangile. Alors d'où lui vient sa détermination ? Verset 2. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile. Une évangélisation authentique puise son courage en Dieu. Mais comment ? Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes, mais de croire que lui en est un, parce qu'il est Dieu. Lorsque nous évangélisons, eh bien, nous subissons le désintérêt, voire les moqueries, l'opposition. Et parfois, on peut perdre courage. Eh bien, pour reprendre courage, passons du temps avec Dieu. Alors, dans la prière, bien sûr, mais aussi dans la lecture de la Bible. Parce qu'ainsi, on redécouvre les prodiges que notre Dieu a accomplis et on reprend courage. Mais s'appuyer sur Dieu, c'est aussi être vrai. Verset 3. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Si on s'appuie vraiment sur Dieu, on n'a pas besoin de ruse. Encore moins de manipulation mentale. Nos motifs doivent être purs et nos méthodes doivent être honnêtes. Affirmer à un malade qu'il sera guéri s'il se convertit, c'est un mensonge. Prétendre qu'avec Dieu dans la vie, les soucis du quotidien disparaîtront, c'est un autre mensonge. En fait, ce genre de procédé témoigne surtout d'un manque de confiance en Dieu. C'est chercher à convertir l'autre par nos propres moyens, par la ruse. S'appuyer sur Dieu, c'est lui abandonner le soin de convertir les cœurs. Dieu seul touche les cœurs. Alors passons au second aspect. L'évangélisation authentique cherche à plaire à Dieu. Je vous propose de relire les versets 4 jusqu'au début du verset 6. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui éprouve notre cœur. Jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Alors notre société est marquée par le politiquement correct. On court après l'approbation des autres, quitte parfois à sacrifier la vérité. Paul, lui, veut uniquement plaire à Dieu. Mais la question, c'est comment plaire à Dieu ? Eh bien, en parlant, en proclamant l'Évangile, verset 4. Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons pour plaire à Dieu. Alors cela souligne l'importance de la proclamation. L'Évangile doit être dit. Les actes ne remplacent pas les paroles. Ils les accompagnent. Alors qu'est-ce qui nous empêche de parler ? Parfois ce sont nos priorités. J'ai mes chats sur Facebook, mes cours de guitare, mes fêtes entre potes. Je n'ai plus de temps. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème de temps. Parce que dans toutes ces activités, je peux parler de l'évangile aux autres. Parfois, c'est la peur qui nous empêche de parler. Alors, Paul risquait la mort. Nous, on a peur pour notre image, peur de sortir du politiquement correct. Alors, c'est vrai qu'à la rigueur, on veut bien parler des aspects consensuels de l'évangile. Par exemple, l'engagement social du chrétien est rarement critiqué. Mais briller dans un dîner en parlant de la croix, c'est plus dur. Pour plaire à Dieu, nous devons parler. Mais pas pour dire n'importe quoi. Au verset 4, Paul rappelle que l'évangile lui a été confié par Dieu. Le contenu du message appartient à Dieu. Il en confie la proclamation aux hommes, mais à charge pour ces derniers de dire tout l'évangile et rien que l'évangile. Alors, est-ce que nous présentons fidèlement l'évangile? Ou bien préférons-nous en occulter certains pans que nous jugeons dérangeants? C'est pas facile de parler du jugement, de la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine provocateur Entrevue, mais il affirme « toutes les vérités sont bonnes à dire ». Alors moi, je dirais plutôt que toutes les vérités dites dans l'amour sont bonnes à dire. Ce passage appelle à rejeter les paroles flatteuses. Il y a bien des manières de flatter, mais je pense que présenter l'évangile sans parler du péché en est une. Alors, troisième aspect. L'évangélisation authentique manifeste l'amour de Dieu. Et je vous invite à relire la suite du verset 6 jusqu'au verset 9. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, pardon, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous aurez relevé que Paul parle de sa vive affection pour les Thessaloniciens. Il évoque même l'amour maternel. Ce sont des termes très forts. L'évangile n'est pas la froide transmission d'une nouvelle. Ce n'est pas la proclamation impersonnelle d'un message. Nous ne sommes pas des boîtes vocales évangéliques. Vous avez un message de Dieu. Si vous souhaitez l'entendre, tapez 1. Si vous souhaitez le supprimer, tapez 2. Non, nous représentons Dieu dans ce monde. Or, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Paul a tant aimé les Thessaloniciens qu'il était prêt à donner sa vie pour eux. Souvenons-nous que l'évangélisation est un acte d'amour. Un acte d'amour. Amour pour Dieu et amour pour les autres. Un amour qui va jusqu'à donner sa vie. Alors c'est vrai que quand on dit ça, on voit la reine, les lions, la mise à mort. Mais donner sa vie, c'est souvent une multitude de petits sacrifices. Modestes, mais quotidiens. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'apôtre Paul. Ce n'est pas qu'une affaire de sentiments. En fait, Paul a fait dans le concret. Fin du verset 6, il a usé de bienveillance plutôt que d'autorité. Là, on voit que l'évangélisation est aussi affaire de douceur, de respect de l'autre. On ne cherche pas à soumettre l'autre. Ensuite, Paul a travaillé pour éviter de dépendre des autres. Alors attention, en tant qu'ouvrier de Dieu, il aurait pu exiger un soutien financier. Je ne voudrais pas que, lorsque vos pasteurs reviennent, vous leur disiez que vous avez entendu que, ben non, ils sont censés bosser, et puis voilà. Non, en tant qu'ouvrier de Dieu, ils auraient pu exiger un soutien financier. Mais pour montrer l'exemple, il a sacrifié ce droit. Alors, dernier aspect, l'évangélisation authentique manifeste la sainteté de Dieu. Ça, c'est les versets 10 à 12. Alors, on les relit. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragés, réconfortés et suppliés de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors nous avons dit que l'évangélisation est d'abord une proclamation. Mais il faut aussi des actes. Les paroles sont primordiales, mais sans les actes, elles sont dépréciées. Verset 10, nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable. L'évangélisation, c'est chercher à vivre ce qu'on proclame. Et souvenons-nous qu'une vie sainte montre la puissance de l'Évangile. Alors il s'agit aussi, entre guillemets, d'assurer le service après-vente. Verset 12, nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu. Une fois qu'une personne donne sa vie au Seigneur, eh bien on continue. On l'encourage à persévérer, à vivre ce qu'elle croit désormais. C'est le seul moyen de s'assurer que sa foi est réelle. Parce que la foi et la sanctification, tout comme la foi et la persévérance, sont indissociables. Alors voilà à quoi ressemble l'évangélisation selon Dieu. Elle s'appuie uniquement sur Dieu. Elle se vit pour lui faire plaisir. Elle consiste à aimer les autres comme lui nous a aimés. Et elle consiste à vivre une vie cohérente avec ce que l'on prêche. Mais au regard de cela, une question se pose. Qui de nous est capable de vivre une telle évangélisation? Qui de nous est capable de vivre une telle évangélisation? Or, la réponse se trouve dans notre seconde partie, qui sera plus courte. Les effets d'une évangélisation authentique. Je vous propose de retenir trois choses. D'abord, l'action de Dieu, verset 13. Ensuite, la décision des Thessaloniciens, verset 13, toujours. Et enfin, la conséquence de cette décision, verset 13 à 16. Alors, commençons par voir l'action de Dieu. Mais déjà, Dieu a-t-il agi? Ne serait-ce pas plutôt Paul qui agit? D'ailleurs, verset 1, Paul précise tout de même que son évangélisation n'a pas été inutile ou sans résultat. Et le livre des Actes des Apôtres confirme cela. Je vous cite le passage des Actes des Apôtres qui concerne l'arrivée à Thessalonique de Paul et Silas. Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Je rouvre une parenthèse, ce n'est pas vraiment l'habitude d'une personne antisémite d'aller à la synagogue, mais bon, je referme la parenthèse. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Trois sabbats. Résultat, quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Et voilà, donc trois semaines top chrono, et hop, Paul vous crée une nouvelle église. Donc ça, on peut vraiment parler de résultats. Alors ici, à la rue de Sèvres, où en êtes-vous? Avec vos cafés-bars, vos soirées du 72, vos horizons Dieu, j'ai fait un rapide calcul. Vous avez commencé, allez on va dire, il y a environ 62 ans, à raison d'une église toutes les trois semaines, le rythme de l'apôtre Paul. Vous devriez être en train d'inaugurer votre 1074e église. Vous avez pris du retard. Oui, mais voilà, ça ne marche pas comme ça. Après Thessalonique, il y aura Athènes pour Paul. Et là, seulement quelques conversions. Notre responsabilité, c'est d'évangéliser. Le résultat, c'est l'affaire de Dieu. D'où le verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance. Paul remercie Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui a touché les cœurs. D'ailleurs, dès le verset 12, on voit aussi que c'est Dieu qui appelle. Nos efforts d'évangélisation ne fonctionnent pas en eux-mêmes. Dieu seul peut donner des résultats à notre travail. Alors certains vont peut-être se dire, puisque c'est Dieu qui agit, laissons-le tout faire. Quant à nous, nous attendrons tranquillement dans l'Église. L'action de Dieu ne doit pas nous démobiliser. Dieu a choisi l'évangélisation pour se faire connaître. Dans sa souveraineté, il a décidé de se servir de notre proclamation. C'est un ordre. En fait, l'action de Dieu, je pense que c'est un formidable encouragement à évangéliser. Quel soulagement de savoir que seule notre participation est requise, mais que le succès ne repose pas sur nos forces, sur nos moyens. Notre responsabilité se limite à parler. Et cela nous amène à une autre responsabilité, celle de ceux qui écoutent. Deuxièmement, examinons la décision prise par les Thessaloniciens, toujours le verset 13. On le relit. « En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Alors, deux choses. D'abord, les Thessaloniciens ont reçu et accueilli la parole. Ils n'ont pas seulement écouté, ils ne l'ont pas seulement trouvé intéressante, distrayante. Non, ils l'ont accueillie. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés personnellement la parole. Ensuite, ils ont reçu la parole comme étant la parole de Dieu. Pas une philosophie parmi d'autres, pas une belle histoire. Non, l'évangile, c'était Dieu qui s'adressait à eux. Alors, que faisons-nous de la parole que nous entendons? S'exposer à la prédication de l'évangile ne suffit pas. Assister aux réunions du jeudi, c'est bien. Venir le dimanche matin, c'est très bien. Mais après, Dieu veut que nous recevions l'évangile, que nous l'accueillions dans notre cœur et que nous lui reconnaissions toute sa valeur, celle d'une parole de Dieu. Et de même, lorsque nous lisons la Bible, quelle est notre attitude? Est-ce un texte parmi d'autres ou est-ce Dieu qui parle? Avons-nous une attitude d'humilité, de soumission face à la parole? Alors terminons par la conséquence de la décision des Thessaloniciens. La conséquence. Eh bien, la conséquence, c'est une transformation. Une transformation. Fin du verset 13. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La parole agit dans chaque Thessalonicien converti. Elle fait d'eux des êtres nouveaux. Par sa parole, Dieu transforme les hommes. Il les amène à la ressemblance de Jésus. Alors cet élément est capital. Et cela a un double titre. D'abord parce que cette transformation prouve que nous avons vraiment reçu la parole. Quand la parole est à l'œuvre, ça se voit. Mais aussi, ce verset répond à notre question laissée en suspens. Qui de nous est capable de vivre une évangélisation authentique? Aucun de nous n'en est capable. Toutes ces choses que nous avons dites dans la première partie sont en dehors de nous. Mais nous voyons ici que la parole agit en nous. Dieu peut nous changer. Et c'est ce qu'il fait actuellement par l'action de sa parole. Dieu peut nous rendre capables de vivre cette évangélisation authentique. Si vous en doutez, vous avez la preuve sous les yeux. C'est ce qu'a fait Dieu dans la vie de Paul. Paul était un persécuteur. Il est devenu un évangéliste authentique. Alors, il est temps de conclure. Paul et les Thessaloniciens ont proclamé l'évangile. Mais les trois derniers versets montrent que cela leur a coûté très cher, la persécution. Il est vrai que notre contexte semble bien différent de celui de l'apôtre Paul. Notre société se veut libre et tolérante. Mais en réalité, le monde qui nous entoure n'est pas spirituellement neutre. Il est toujours rebelle à Dieu et à ceux qui lui appartiennent. D'ailleurs, assez largement, notre société veut nous empêcher de parler. Parler de l'évangile serait du prosélytisme agressif. Cela menacerait la sainte laïcité. Croire qu'il existe une seule vérité, ce serait prétentieux, intolérant. Et donc, nous subissons, parfois l'opposition, parfois le mépris, une forme de marginalisation. Oui, notre monde s'oppose toujours autant à l'évangile. Mais cela ne doit pas nous troubler. Si le monde nous laisse en paix, c'est là que ça devient inquiétant. Alors plaçons notre confiance en Dieu. Je l'ai dit, il a su changer le cœur d'un persécuteur comme Paul. Il saura continuer à faire de grandes choses. Et puis, en cette rentrée, mobilisons-nous pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Dieu veut continuer à se servir de sa parole pour toucher des cœurs et pour les changer. Et ma prière, c'est qu'il puisse continuer à le faire en nous et puis auprès de ceux qui nous entourent. Amen.